tous et bienvenue dans cette 8ème édition des Clairvoyants.
Les Clairvoyants.
Édition des Clairvoyants, le podcast dédié au MCU. Bonjour Fox.
Bonjour Faskil, bonjour à tous.
Est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots ce qu'est le MCU pour ceux qui ne prendraient le train en marche?
Alors le MCU, c'est le Marvel Cinematic Universe qui regroupe tous les films réalisés par Marvel et exclusivement par Marvel. Donc les Avengers, Iron Man, Thor par exemple, Captain America et bientôt plein d'autres films qui vont arriver.
Voilà, et puis aussi les séries télé Marvel, donc Agents of S.H.I.E.L.D. et puis très récemment Agent Carter sur ABC, et puis bientôt les séries Netflix, Daredevil, Jessica Jones, etc. On en reparlera plus en profondeur. Notre objectif donc c'est de parler de tout ça en une heure avec un petit focus sur des news. Ensuite on se laisse aller à un petit peu de théorie crafting où on spécule sur ce que pourrait devenir dans un avenir plus ou moins proche le MCU. On fait aussi un focus pour les gens qui n'ont pas de culture comics, qui ne s'intéressent pas aux comics mais qui veulent quand même en savoir un peu plus sur les personnages qu'on leur présente dans les films. Ce mois-ci on s'intéressera aux Twins, Scarlet Witch et Quicksilver, et puis on parle aussi un peu de Marvel en dehors du MCU avec la Fox et Sony, et on termine comme à chaque fois avec le courrier des lecteurs, sans oublier bien sûr la petite pause musicale au milieu du podcast. Et ce mois-ci c'est toi qui t'y colle d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
C'est exact.
I would say I'm a true believer.
True Believers, donc les news en rapport direct avec le MCU. Pas mal de news ce mois-ci, notamment concernant ben forcément les films à venir, dont Age of Ultron. On a eu droit à un nouveau trailer qui est sorti il y a une quinzaine de jours, si je ne dis pas de bêtises,
c'est
avec
ça.
Un ton assez surprenant finalement. On a eu, on s'attendait à quelque chose de plus classique avec une salve de punchline, de van, etc. Et puis finalement, on a eu à nouveau un truc assez dark, assez sombre, assez dépouillé même.
Le trailer, déjà, il nous révèle quelques bricoles, mais c'est vrai que, comme on l'avait dit déjà dans les précédentes émissions, Marvel est en train d'entrer dans un arc un peu plus sombre. Tout s'assombrit déjà beaucoup plus, on l'a vu avec Iron Man 3 déjà, qui était la confrontation de Stark avec lui-même.
Et puis Winter Soldier aussi, c'était pareil.
Hein. Voilà, Winter Soldier, c'était ça s'écroulait un petit peu. Là, on arrive vraiment vers une confrontation assez dure entre Ultron et les Avengers, et tout ce qu'on a pu voir dans le trailer, moi, ça m'engage vachement. Je suis super content, j'ai très hâte, mais ça a l'air vraiment très très mauvais pour ce qui va être de la suite, quoi.
Et puis je pense que comme on le disait déjà à plusieurs reprises, ils sont tellement certains de cartonner à la sortie du film qu'ils n'ont pas vraiment besoin de faire ce qu'on appelle de la communication traditionnelle, donc ils peuvent se permettre de sortir un peu des rails habituels et de faire ce genre de trailer un peu décalé, un peu opaque, un peu sombre, un peu étrange, un peu.
Ils ont réussi à créer un socle de ce que j'appelle un socle de confiance avec les derniers films. Mmh. Donc du coup, là, il y a une véritable communauté. Il y a des gens, comme nous, qui suivons vraiment l'actualité du MCU et qui attendent vraiment les films. Du coup, ils peuvent vraiment se débarrasser toute la partie communication légère et communication néophyte pour dire voilà, vous nous suivez depuis des années, on va vous donner des trailers qui vous donnent de l'info, qui vous donnent envie et qui oublient tout le bullshit commercial qui est autour. C'est vraiment, on te fait rentrer dans le film par les teasers et les trailers.
Et puis surtout, ça génère à chaque fois un buzz incroyable parce que forcément tous les sites reprennent le trailer, s'amusent à le découper, à analyser image par image et plan par plan ce qui s'y passe.
Il y a des gens qui en font des podcasts.
Exactement. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. On reparlera du trailer quand on fera notre petite séance de théorie crafting. On va pas s'étendre dessus pour le moment, mais je voulais quand même préciser. Donc pour ceux qui l'auraient loupé, il y a un nouveau trailer à aller voir, à aller découvrir avec cette musique. Toujours ce thème de Pinocchio repris cette fois-ci au piano, un peu dissonant, et c'est plutôt réussi. Enfin moi en tout cas ça m'a encore gonflé ma hype. J'espère vraiment pas arriver trop hypé au film et finalement en sortir déçu.
Moi j'ai vu la Hulkbuster, c'est fini, je suis hypé.
D'ailleurs puisqu'on parle des Age of Ultron, bonne nouvelle pour nous qui habitons dans l'Hexagone, puisque le film a été avancé, la date de sortie du film a été avancée en France au 22 avril, donc on le verra pratiquement deux semaines avant qu'il sorte aux États-Unis, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous évitera d'avoir à slalomer pour s'épargner les spoilers et autres qui vont probablement déferler sur les toiles. temporel, surtout qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas concernant le film. On n'a pas encore vu Vision notamment, donc on se doute qu'il se garde ça sous le coude pour soit pour les derniers trailers, soit carrément pour le film, ce qui serait vraiment malin. Donc le fait qu'ils sortent un peu plus tôt chez nous est finalement, finalement une bonne nouvelle. Donc 22 avril, soyez prêts, faites la file pour aller voir Age of Ultron. On reste sur Age of Ultron puisqu'il y a 2-3 rumeurs dont je voudrais parler en vitesse, notamment le fait que le personnage d'Ulysses Klaue, dont on avait déjà parlé, qui serait interprété par Andy Serkis, semble se confirmer. En tout cas, c'est ce que pense la majeure partie des experts Marvel après avoir vu ce deuxième trailer. Donc ça voudrait dire donc déjà une entrée dans l'univers de Wakanda, de Black Panther, des Age of Ultron, ce qui serait plutôt cool. Il y a 2 autres rumeurs qui sont pour le coup peut-être un petit peu plus discutables, mais on va quand même en parler puisqu'on parle de l'arrivée de Mantis dans Age of Ultron. Ça, bon, je pense que c'est plus de l'ordre du fantasme pour le moment.
C'est quand même bon. Mantis, c'est pas un perso qui est extrêmement connu non plus de nos jours. Puis faudrait l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Elle arriverait un peu comme un cheveux sur la soupe à mon sens, mais ce serait possible. Il pourrait complètement l'intégrer, mais pour la remettre après dans Guardians un peu plus tard.
Elle a des connexions dans les comics, en tout cas elle a des connexions avec Vision, avec Scarlet Witch, avec Quicksilver, avec Thanos, avec les Guardians de Galaxy. Donc il y a une espèce de cohérence à ce niveau-là qui est pas forcément fortuite. Donc tout est possible. Maintenant ça reste encore pour le moment de la spéculation et des rumeurs concernant l'apparition de son personnage dans Age of Ultron, qui n'aurait effectivement comme ça à brûle pour point pas vraiment beaucoup de sens en dehors d'introduire un personnage qui servirait plus tard. On l'avait vu avec Thanos dans Guardians of the Galaxy, hein. Au final Thanos sert pas à grand chose dans le film, mais c'était plus une manière d'introduire le personnage indirectement dans une autre franchise. Donc bon, ça on verra. La deuxième rumeur qui méritait d'être signalée, c'est ça tourne autour de Hulk en fait, et c'est vrai qu'on avait déjà tiqué un peu en voyant le premier trailer. Ça s'est confirmé avec le deuxième, puisque dans le deuxième trailer on peut voir un Hulk avec les yeux rougis. Et c'est vrai que ça a suscité pas mal de spéculations. On a parlé notamment peut-être de la présence d'un Hulk soit manipulé par Scarlet Witch ou par quelque chose d'autre, peut-être une pierre de l'infini, puisqu'on en parlait aussi dans un des précédents podcasts. D'autres sources parlent même carrément de l'arrivée du Grey Hulk. Alors le Grey Hulk, en deux mots, c'est une sorte de version un peu plus intelligente, plus posée, mais moins balèze de Hulk, du Hulk classique. Donc c'est une version un peu plus réfléchie. Je crois que c'est Mr. Fixit dans les comics.
C'est Mr. Fixit, c'est ça, ouais. C'est une altération de Hulk, en fait, qui prend le contrôle sur Banner.
C'est ça.
Et qui est tout le temps Hulk, en fait. Il est moins balèze, il est moins puissant, il est beaucoup plus intelligent, parce qu'il devient à un moment une espèce de petit seigneur du crime en costume de malfrats des années 30, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mais dans le trailer, on le voit avec ses yeux rouges. Est-ce que c'est les pouvoirs de Scarlett? Moi, j'en suis convaincu que c'est les visions de Scarlett qui font ça. Si tourner en Mr. Fixit en Grey Hulk, ça pourrait être aussi intéressant pour l'avenir, et ça pourrait nous donner nous ouvrir un arc vers Grey Hulk et Red Hulk sur un film Hulk directement.
Pourquoi pas. Il faut savoir que dans les dessins animés, le personnage de Banner est complètement passé à la trappe en fait depuis la nouvelle série, donc qui s'appelle Avengers Assemble, qui est pas terrible, hein, mais on va en parler quand même. Donc Hulk est en Hulk en permanence, il y a plus jamais de Banner, donc c'est une sorte de Grey Hulk qui ne dit pas son nom. Donc ça pourrait être aussi un indice de ce qu'il prépare pour Age of Ultron. On en saura plus. Pour le moment, il faut savoir que la rumeur repose uniquement sur le fait qu'il y a une série de jouets qui est sortie, et que dans cette série, le personnage de Hulk était gris et non vert.
C'est ça, c'est les pop, c'est la série pop qui marche vachement bien, surtout depuis Guardians. Donc
mais on sait à quel point, surtout depuis Winter Soldier, qu'il faut pas se fier aux jouets pour essayer de découvrir des indices de trame des films, puisque en général il y a plein de red herring justement dans les jouets. On sera rappelle de la présence notamment du Red Skull dans les jouets de la ligne Winter Soldier, alors que finalement il apparaît pas du tout dans le film. Désolé si vous ne l'avez pas vu, je viens de vous le spoiler. Et c'était la même chose pour Iron Man 3, puisqu'il y avait un espèce de final showdown où on voyait Iron Man affronter le mandarin dans un espèce de véhicule avec des tentacules, et il s'avère que finalement c'était pas vraiment ça non plus.
C'est pour les japonais les tentacules, c'est pour ça.
C'est ça, c'était du hentai. On en a fini avec Age Age of Ultron, on passe en vitesse sur Civil War, donc c'est le prochain gros film Captain America qui arrive donc l'année prochaine en 2016, dont le tournage va probablement bientôt commencer, puisqu'on a eu confirmation donc de la présence de Black Widow. Alors on savait déjà qu'il y aura Iron Man, Captain America forcément, Winter Soldier, Black Panther et potentiellement Hawkeye, même si ça n'a pas encore été confirmé. Alors si on pouvait qualifier Winter Soldier d'un Avengers 1.5, on se dirige véritablement vers un Avengers 2.5 en ce qui concerne Civil War. Anthony Mackie qui en parlait dans une interview plaisantée en disant qu'en fait il s'agissait d'un Avengers 3.8, ce qui ne veut absolument rien dire et qui était assez drôle. Donc voilà, on a de plus en plus de rosters des Avengers en fait qui rejoignent la fiche de Civil War, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Ça
nous promet en tout cas un film bien massif.
C'est tentant, c'est surtout tentant parce que de toute façon il faut du monde pour faire une guerre civile. Il faut vraiment beaucoup de monde, donc
c'est un peu l'enjeu du film. Donc si c'est pour se faire opposer deux camps de super-héros, si c'est juste Iron Man et Captain America, ça risque d'être un petit peu léger. Donc on est content de savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui se joignent à l'aventure. Bref, on en saura probablement plus. Et toujours concernant Civil War, on a appris que Daniel Brühl, qui avait été donc casté, et on pensait au départ que ce serait dans le rôle d'un super bad de Doctor Strange, il s'avère qu'en fait, il s'agirait plutôt de Baron Zemo. Alors, on ne sait pas si c'est le Baron Zemo père ou le Baron Zemo fils, mais en tout cas, bon, c'est un des... Le Baron Zemo père, si je ne dis pas de bêtises, c'était aussi un des grands adversaires des Avengers dans les comics. Hein.
Oh oui, le Baron Zemo, c'est père et fils, c'est vraiment des bonnes raclures comme on les aime. Ça fait du bad qui peut être intégré facilement et qui peut être aussi sorti facilement, donc on verra ce que ça donne. J'espère quand même qu'on aura un lien entre les deux. Genre croiser le Baron Zemo dans un flashback de Captain America par exemple, ou un flashback avec Ward Stark, parce que il pourrait très bien apparaître comme ça, le vieux, dans un morceau des Jane Carter aussi, donc
tout à fait, ouais.
Non, c'est une bonne nouvelle.
Tout à fait, donc on verra. Donc ça sera 2016, on a encore le temps. Guardians of the Galaxy, on a deux petites infos. D'abord, réflexion de James Gunn sur le premier film. On a appris de source officielle cette fois-ci, ça y est, c'est avéré, c'est clair, c'est net, c'est définitif. Le cocon présent dans Guardians of the Galaxy n'était pas celui d'Adam Warlock.
Non.
Alors, est-ce que, encore une fois, rien ne l'oblige à nous dire la vérité non plus, hein, donc il se peut très
oui,
bien
il
qu'il
peut mentir.
Mentir.
Il peut mentir comme un arracheur
voilà,
de dents.
Exactement, hein, donc on ne sait pas si c'est plus pour nous induire en erreur ou si c'est une véritable annonce officielle. En tout cas, bon bah voilà, si c'est pas Adam Warlock, quelque part ça a du sens, parce que comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, Adam Warlock c'est un personnage vraiment compliqué, difficile à mettre en place, et puis qui surtout...
Ce serait un enfer à l'intégrer, surtout.
Voilà.
C'est un enfer à l'intégrer au MCU, déjà dans les comics c'est un enfer à comprendre un petit peu qui il est, d'où il vient, les tenants et aboutissants. Toute la partie cosmique, de toute façon il y a Adam Warlock quasiment à chaque fois au centre, donc du coup c'est très compliqué pour lui. Après, il peut y avoir quelque chose d'autre dans le cocon.
Tout à fait.
Je garde l'idée qu'il y a quelque chose dans le cocon, mais...
On verra. Ce sera pour Guardians of the Galaxy 2. Et puisqu'on parle de Guardians of the Galaxy 2, on a appris que donc Ronan ne ferait pas son retour, ce qui était plus ou moins attendu, hein. On se doute bien que c'était plus du Big Bad jetable et que du coup, on ne le reverra pas dans Guardians of the Galaxy 2. Voilà, ça s'est confirmé aussi. Spider-Man dans le MCU, nouvelle rumeur de deal entre Disney, Sony. On parle de l'apparition du personnage en Infinity War, une info qui a été immédiatement démentie à grand renfort de communiqué de presse par Sony. En ce qui me concerne, je continue de penser que ce serait une mauvaise idée, parce que je vois vraiment pas, en dehors de faire un coup de buzz un peu facile, l'intérêt d'intégrer aujourd'hui un Spider-Man dans le MCU, à moins vraiment de partir sur une piste de traverse et de nous filer un Spider-Man plus récent, en l'occurrence Morales. Mais même avec ça, jeter comme ça le personnage dans
l'univers,
dans
c'est pas
sans,
ouais
voilà.
Non, c'est ils l'ont gâché depuis des années. Moi j'ai beau bien aimer Emma Stone, bon, des derniers Spider-Man, je suis désolé, quand tu regardes le Big Bad du dernier Spider-Man et le coffret DVD, t'as envie de vomir du sang par les yeux, donc bon.
C'est désespérant, effectivement.
C'est de la merde.
Donc du coup, voilà. D'autant plus que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi j'estime qu'il n'est pas essentiel à Civil War. Il avait un rôle, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, qui était plus symbolique qu'autre chose.
C'est un vrai pivot,
et
qui
est parfaitement interchangeable, en fait. Voilà, tout à fait. Donc pour le moment, pas de Spider-Man dans le MCU, et moi j'ai envie de dire tant mieux. On va s'intéresser aux séries télé à présent, puisque ben, Agent Carter suit son petit bonhomme de chemin. Et pour le moment, ça se passe plutôt pas trop mal. En tout cas, moi, je suis relativement convaincu par ce qu'il nous présente en ce moment sur ABC. On en est au 4e épisode et ça se passe plutôt pas mal. On a appris récemment de la bouche même des créateurs de la série que Dottie, donc ce personnage qui est apparu dans l'épisode 3, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, elle est arrivée au milieu de l'épisode 3.
Et qui tout à coup pète des culs dans l'épisode 4.
Non mais j'ai fait un bond sur ma chaise parce qu'en fait non mais on va vous expliquer, mais depuis que Dottie est apparu, donc ça fait, il y a pas eu d'épisode la semaine avant, donc on est la semaine du 28-30, donc il y avait épisode 4 cette semaine. Moi j'étais persuadé que c'était pas Dottie la méchante, que c'était la serveuse, parce que je peux pas la blairer, j'ai un doute sur elle. Et là il y a Dottie qui, oh c'est un flingue automatique, je le veux.
Immonde. On en reparlera tout à l'heure des perspectives sur Agent Carter, et notamment de la possibilité de voir apparaître une certaine Madame Hydra, mais ça on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, il est donc confirmé que Dottie est un produit du Black Widow programme, donc les expériences qui ont eu lieu dans ce qu'on appelle la Red Room, où en gros ils formaient donc des jeunes filles à devenir des assassins, qui ont donné donc la Black Widow qu'on connaît dans le MCU contemporain, et qui donc apparemment aurait aussi donné ce personnage pour le moment de Dottie qui n'existe pas dans les comics, qui serait donc soit une pure création pour le MCU, soit effectivement un nom d'emprunt pour masquer un autre personnage.
Elle me fait penser à Silver Sable, je sais pas si tu la connais, c'est une mercenaire du Marvel Universe, qui est blonde, qui a les cheveux argentés, qui est très très grande, qui est très violente comme ça, et sur le coup j'ai pensé à Silver Sable. Elle aurait rien à faire là parce que elle est beaucoup plus liée à Spider-Man et à d'autres univers, mais c'est un peu le même système, c'est-à-dire une comme Mockingbird en fait, c'est des grandes nanas qui sont ultra badass et qui en même temps sont totalement invisibles quand elles sont pas en costume quoi.
Mais écoute, on en saura plus dans les prochains épisodes. De toute façon, il reste 4 épisodes là, donc on va avoir rapidement des réponses à ces questions. Et puis tant qu'on parle d'Agent Carter, on a eu une déclaration du Big Boss d'ABC qui se dit extrêmement satisfait des séries Marvel, notamment donc Agents of Shield et Agent Carter, et qui envisage même carrément plus de collaboration avec Marvel pour l'avenir. Donc voilà, qui devrait rassurer les gens qui étaient peut-être un peu inquiets suite aux audiences pas toujours démentielles d'Agents of Shield, même si Agent Carter fait un petit peu mieux apparemment. Voilà, pas de raison de s'inquiéter, manifestement on va encore bouffer du Marvel sur ABC pour un moment. Puis il faut savoir aussi qu'ABC coproduit les séries Netflix, donc ils sont partie intégrante du MCU du côté de la télé. Et puisqu'on parle de Netflix, on a deux petites news concernant aka Jessica Jones, qui est donc le titre officiel de la série Netflix sur Jessica Jones, qui devrait faire suite à celle sur Daredevil, puisqu'on a appris que David Tennant, qui est bien connu des Whovian, hein, puisque c'était un
l'ex-docteur,
voilà, l'ex-docteur, qui sera donc Purple Man, qui est une espèce de big bad un peu comment dire,
il est particulier, et Purple,
voilà,
Man,
un peu obsédé sexuel, un peu déviant, un peu
il a un bon pet au casque, voilà. Mais j'aime beaucoup Tennant, pour ceux qui ont vu Broadchurch, où il est juste extraordinaire, parce que moi j'aime pas Doctor Who, pardon, mais c'est juste un acteur qui est formidable, même dans Doctor Who il était déjà formidable, hein, mais du coup le voir en méchant, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'on le voit toujours relativement souvent du côté des gentils ou des flics, des trucs un peu torturés. Dans Broadchurch il est déjà très torturé, là on va pouvoir voir un côté vraiment très très sombre quoi.
J'aime bien ce genre de casting à contre-courant, et puis lui manifestement a l'air très content, parce qu'il a déclaré dans une interview que c'était un fan de Marvel depuis qu'il est tout petit, et que voilà, il était très très content de pouvoir voir les films et de pouvoir regarder ce que faisait ce que faisait Marvel Studios. Maintenant qu'en plus il va pouvoir y participer, il est encore plus heureux. Donc on attend de voir ce que ça va donner, on attend de voir aussi comment ils vont représenter Purple Man en live action, parce que c'est quand même pas un personnage facile à retranscrire. C'est pas Modok non plus, mais bon, c'est quand même un bonhomme qui est pourpre en permanence.
T'as lâché Modok. Modok, touche pas à Modok.
On y arrivera un jour. Bref, Purple Man, donc David Tennant dans AKA Jessica Jones, la prochaine série Netflix. Et puis restons sur Jessica Jones avec le casting de Rachel Taylor, qui sera donc Patricia Walker, qu'on connaît aussi sous le pseudonyme de Hellcat dans les comics, qui servira manifestement de buddy à Jessica Jones. Jones, faut savoir que dans les comics Alias, c'est surtout un rôle qui était rempli par Carol Danvers, donc Miss Marvel, mais bon, on imagine que c'est délicat d'introduire Miss Marvel dans une série télé si c'est pour avoir un feature film dessus après, donc il est un peu logique qu'elle remplisse ce rôle-là, donc L4 dans Jessica Jones, Rachel Taylor, pour ceux qui ne la connaissent pas, je peux pas leur en vouloir, elle a pas vraiment une grande carrière derrière elle non plus, mais c'était elle qui jouait cette espèce de hackeuse avec un accent australien absolument délicieux dans le premier Transformers, la blonde donc.
Oui.
Voilà, donc elle sera elle aussi à l'affiche de Jessica Jones, qui commence à avoir un solide casting, donc je suis de plus en plus intrigué. Surtout qu'Alias, Alias c'était un comics que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé.
Moi j'attends aussi Daredevil parce que je veux voir D'Onofrio mais je suis de plus en plus hypé par D'Onofrio en Wilson Fisk.
Eh ben écoute, tu n'es pas le seul. Voilà qui fait donc le tour des news pour le MCU ce mois-ci. Plus de news le mois prochain, et puis là on va passer à notre petite rubrique où on se lâche un peu, le theory crafting. The Tesseract has shown me so much. It's more than knowledge, it's truth. Avengers, c'est pas l'heure. Pendant 15 minutes, on se lâche un peu et on spécule sur ce qui pourrait se produire dans un avenir plus ou moins proche dans le MCU. Et j'ai envie de commencer par Agent Carter, parce qu'on en parlait tout à l'heure, du personnage de Dottie Underwood. Plusieurs spéculateurs, entre guillemets, c'est un terme qu'on va consacrer, parlent de la possibilité de voir apparaître une certaine Madame Hydra dans le MCU, et plus particulièrement donc dans Agent Carter. Alors, pourquoi Madame Hydra, ça aurait du sens parce que déjà de base elle est liée à Léviathan, et puis elle est liée aussi par la suite à Hydra, ce qui ferait la connexion entre les deux Big Bad, et puis surtout parce que d'un point de vue scénaristique, je trouve que ça aurait vraiment du sens d'opposer à Agent Carter, qui est une super héroïne, un personnage féminin fort, de lui opposer justement un Big Bad féminin aussi. Ça aurait vraiment du sens et ça serait plutôt bien vu de suivre cette voie là et puis bon, il y a aussi des éléments qui dans les épisodes laisse penser que la silhouette qu'on a déjà entreaperçue à plusieurs reprises dans la série, là où il y avait des choses pas très catholiques qui se produisaient, était manifestement une silhouette de femme. Alors je sais pas ce que toi t'en penses, moi Madame Hydra ça me paraît être une option tout à fait possible.
Mais je pense à peu près la même chose en fait, ce que je m'étais demandé, parce qu'on a Léviathan, ça c'est sûr, mais Madame Hydra étant plus ou moins un transfuge, elle avait les mains des deux côtés, et puis Léviathan descend quelque part aussi d'Hydra, puisque c'était c'était une partie des labos russes de Red Skull. On se retrouve avec vraiment quelque chose qui va unir. On est en pleine guerre froide qui va à peine commencer là, en plus ce qu'il se méfie des Russes, on est après la guerre, tout ça. On a les restes d'Hydra qui sont jamais très loin, donc je pense que ça pourrait être totalement ça. Après on sait qu'on se fait avoir à chaque fois,
c'est clair,
il se pourrait qu'il y ait une autre Madame Hydra et que Dottie ait été envoyée pour justement la débusquer. Ce serait l'agent russe qui se serait le agent Carter russe qui serait envoyé pour justement trouver la Madame Hydra, la véritable Madame Hydra.
Voilà. Il y a deux pistes en fait, hein. Soit Dottie Underwood, bon maintenant qu'on sait qu'elle a fait partie du Black Widow Project, on sait qu'elle est probablement qu'elle a probablement une importance plus grande que ce qu'on a laissé paraître jusqu'ici. Maintenant il y a aussi, comme tu le disais tout à l'heure, cette fameuse serveuse pour le moment sert plus d'accessoires d'exposition en fait, on va dire, d'un point de vue purement...
Elle est trop sympa pour être honnête.
Oui, et puis elle a pour le moment qu'une utilité purement scénaristique, c'est-à-dire qu'elle permet à Agent Carter d'exposer un peu ses angoisses, ses anxiétés, machin, etc. Elle sert un peu de confidente en fait à Agent Carter, mais ça pourrait effectivement masquer quelque chose d'autre. Elle pourrait être là aussi pour la surveiller, et donc on pourrait retomber à ce moment-là sur Madame Hydra.
Moi, ce qui m'embête là-dessus, c'est que quand Peggy cherche un appart, elle lui trouve plusieurs apparts.
C'est ça.
Quand Peggy a un souci, elle la conseille et elle la guide bien. C'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois elle l'aiguille vers les bons trucs, vers les bons choix. Et puis là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle avait besoin d'un appart, vu que c'était juste plus possible et elle pouvait pas habiter chez Stark. Elle l'a amené dans un endroit sécurisé où elle peut sortir relativement facilement. On l'a vu dans les épisodes, même si mamie Myriam veille au grain, on pense à Howard, il passe n'importe où, voilà. Et puis si on regarde le truc, c'est qu'il a fait, il fait toutes les chambres du couloir sauf celle-là. Hein.
C'est ça. Ouais.
Sauf celle-là et celle de Dottie. Donc je me dis, elle est trop sympa pour être honnête. elle va nous faire un enfant dans le dos. Donc moi je concentre vraiment mes fiances sur cette gentille serveuse.
En tout cas, l'info importante, c'est vraiment donc cette histoire autour du Black Widow Project, de la Red Room. Enfin, même si le terme Red Room n'a pas été utilisé par les créateurs de la série, ils ont parlé du Black Widow Project, ce qui revient globalement à peu près au même. Et justement, je voulais en parler puisque dans le trailer d'Age of Ultron, on a de nouveau des images supplémentaires de ces espèces de flashbacks un peu étranges autour de Black Widow, où justement on se demandait s'il allait être fait mention de ses origines et donc de la Red Room.
Je me demande si justement Doty, qu'on voit comme maintenant qu'on sait que Doty fait partie du Black Widow Project, je me demande si Doty justement serait pas comme Carter dans Captain America, beaucoup plus vieille, et donc serait la formatrice, la directrice du programme Black Widow qui a formé Natasha justement.
C'est possible, c'est une piste aussi.
Ça pourrait être un lien.
C'est une piste aussi. D'autres nouvelles informations à décrypter dans le trailer d'Age of Ultron, c'est bien évidemment cette fameuse femme dans la grotte, une image qui tombe encore une fois un peu comme un cheveu dans la soupe, de manière assez similaire à celle des ballerines dans le premier trailer, qui est clairement là pour attiser les spéculations et pour forcer les gens à aller creuser un peu dans les comics pour savoir de quoi il pourrait bien s'agir. Alors là aussi il y a plusieurs pistes, on parle de la garde rapprochée de Black Panther, il pourrait s'agir aussi donc d'une représentation de Elle, qui est donc espèce de version de l'enfer des neuf royaumes en fait, hein, donc qui est lié de nouveau à ce moment-là à Thor, ce qui rejoindrait en fait les images qu'on a vues de Thor dans le premier trailer, où il a l'air d'être dans un endroit qui ressemble quand même fortement à celui-là. Je sais pas, là j'ai franchement pas d'avis définitif en tout cas, je sais pas ce que toi tu en penses.
Sur le trailer, cette femme chauve, parce qu'elle a le crâne rasé, cette femme au crâne rasé qui plonge dans le bassin, de mémoire, c'est exactement le même bassin dans lequel Thor se retrouve torse nu à moitié noyé. Donc ça pourrait être donc les royaumes de Hel, donc ça pourrait être Ella, par extension, si ça pourrait être une représentation d'Ella, c'est-à-dire Hera entre guillemets, qui était la femme qui avait maudit Thor dans les arcs des années 90 et qui lui avait rendu les os fragiles entre guillemets, parce qu'on sait pas si la tenue qu'il porte avec ses écailles, elle est apparue quand il a eu les os tout cassés en fait. Il avait une espèce de maladie des os de verre mystique et du coup il avait construit une armure pour pas que ses os pètent et qui lui permettait de protéger son corps. Donc ça pourrait être cette ancienne malédiction là, ça pourrait être, moi je reste toujours sur le fait que ça pourrait être vraiment les visions envoyées par Scarlet Witch, et donc du coup chacun se retrouve dans le royaume de ses propre peur à chaque fois.
Alors on parle aussi de la sœur de Black Panther, donc Shuri.
C'est possible aussi.
Qui reprend d'ailleurs la tunique de Black Panther dans les comics à un moment. Ça pourrait être ça aussi. On a parlé aussi de Jocasta. Alors là j'y crois moins parce que clairement sur l'image qu'on a, Jocasta, donc c'est l'espèce de
c'est femme
entre guillemets d'Ultron.
Voilà,
c'est Ultron qui s'est créé une compagne robotique. Elle a pas l'air très robotique sur les images en fait, donc je doute que ce soit ça. Maintenant pourquoi pas, hein, qui sait, tout est possible, même si personnellement je miserais plutôt sur Shuri en fait, la sœur de Black Panther, qui pourrait être à l'origine justement de tensions entre les Avengers et le royaume de Wakanda, qui pourrait donc déboucher là aussi sur Civil War. Donc voilà, plusieurs pistes lancées sur ce sujet là, rien de définitif pour le moment, peut-être qu'on en saura plus dans un prochain trailer, mais j'en doute. Mais voilà, le mystère s'épaissit, et en tout cas ces histoires de vision, de flashback machin, ça commence à devenir vraiment très très intrigant. D'autres choses intrigantes, c'est bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, les fameux yeux rouges de Hulk. Bon, on a déjà évoqué la possibilité d'une possession par Scarlet Witch, voire par Ultron. Il faut savoir qu'Ultron dans les comics a aussi la possibilité de contrôler les esprits. Est-ce que ce sera la même chose dans les films? On verra. C'est déjà plus difficile à faire passer, on va dire, donc j'en doute.
Je suis pas sûr justement qu'il ait le contrôle sur Hulk, parce que Hulk résiste très bien aux assauts mentaux en général. Il est, étant donné qu'il est extrêmement puissant et c'est un esprit sauvage, je suis pas sûr qu'Ultron ait la capacité de le maintenir sous contrôle. Par contre, Scarlet Witch totalement, en lui mettant des illusions de réalité,
c'est clair.
C'est ça qui me hype le plus en fait, parce qu'on les voit tous avec toujours ce halo rouge-violet. Donc je me dis, étant donné qu'elle a un pouvoir sur les réalités, elle pourrait créer une vision de réalité alternée pour chaque Avengers, où il doit affronter ses propres peurs. Et ça nous amène à la chose suivante, ce que tu vas dire, Fasque. Mais sur cette phrase d'Ultron, quoi. I'm gonna tear you apart from the inside.
Tout à fait, ouais. C'était le point suivant que je voulais évoquer. C'est une phrase qui est lancée dans le trailer par Ultron, qui dit donc, je vais vous déchirer de l'intérieur, qui pourrait être prise au premier degré dans le sens, voilà, je vais vous faire exploser les viscères, mais qui, si on se pose deux secondes, peut être pris au second degré dans le sens du, vous êtes votre propre ennemi, en fait. Ce qui ferait écho, en fait, à l'idée derrière les Avengers depuis le premier film et puis dans les comics aussi.
Et ce qui est l'idée d'Ultron aussi dans les comics, parce qu'on l'avait dit dans le focus, mais quand il a construit son corps, il a fait depuis le manoir des Avengers aussi.
Ouais, l'idée c'est vraiment donc de dresser les Avengers les uns contre les autres, peut-être en utilisant du coup Scarlet Witch pour manipuler les esprits des Avengers, ce qui pourrait donc expliquer cette phrase un peu mystérieuse balancée par Ultron dans le trailer. Alors après, il y a d'autres mystères, d'autres points et d'autres éléments qui méritent d'être soulignés. Je vais les passer en revue rapidement, mais notamment le fait que il y a des indices de nouveau de Civil War, hein, le fait que Hulk a l'air de balancer des bagnoles sur des humains, en fait, des flics, donc il a l'air d'un peu s'en foutre, alors qu'on sait qu'en général, bon, il est plutôt pas il est pas trop hostile à l'égard des humains, c'est-à-dire qu'il va jamais aller jusqu'à les tuer. On l'avait vu dans Avengers, notamment cette scène avec le pilote d'avion sur lequel il essaie de démolir l'avion, mais à aucun moment on sent la vie du mec en danger. Là, ça a l'air de changer un peu. Donc, est-ce que c'est l'effet de cette possession? Est-ce que c'est ce qui va déclencher justement qui va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va amener donc à Civil War? C'est fort probable aussi. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est le fait donc qu'on a appris que Ultron était donc une création non pas de Stark mais de Stark et Banner, et que manifestement j'ai l'impression, en tout cas en regardant le deuxième trailer, que Stark a continué à bosser dessus alors que Banner avait décidé de son côté d'arrêter. Ce qui me fait dire ça, c'est l'étonnement en fait de Banner au moment où il voit Ultron et il se retourne vers Stark en disant mais c'est Ultron, comme si vraiment il était surpris que le projet était mené à terme. Donc on sent bien le côté cavalier solitaire de Stark possible et ce côté un peu j'ai fait un enfant dans le dos à Banner, qui pourrait encore une fois être à l'origine d'une dispute plus importante entre les deux personnages. Et puis je voudrais terminer sur un point, parce que ça revient à chaque fois, c'est un peu notre marronnier, mais on a maintenant un roster de personnages quand même relativement important, et on sait que dans l'univers Marvel, même si les morts ne sont jamais définitives, des personnages meurent souvent. Est-ce qu'il y aura des morts dans Age of Ultron?
Oui, il va y en avoir, j'en suis certain, j'en suis terriblement certain.
Alors, du coup, on peut passer en revue les candidats, hein. On peut déjà éliminer Iron Man et Captain America, parce que je les vois mal mourir et être ressuscités pour le film suivant, ça me paraît un peu improbable.
Non, mais attention, Iron Man peut être repris par Rhodey.
C'est possible, mais...
Captain America peut être repris par Bucky.
Ouais, mais cela dit, comme on a confirmé Robert Downey Jr. à l'affiche de Civil War, ainsi que Chris Evans lui aussi reprendrait le bouclier de Captain America dans Civil War, ces deux là je pense qu'on peut déjà les évacuer. Black Widow pareil, puisqu'elle a été annoncée au casting. Thor serait a priori dans Ragnarok, donc je le vois mal mourir dans Age of Ultron, surtout que on sait que les événements de Ragnarok se passeront donc juste après Age of Ultron, même si on pourrait voir apparaître un robot Thor comme dans les comics.
Et encore, ils ont pas la technologie pour faire un robot Thor pour l'instant. Stark a pas la technologie pour faire un robot Thor,
donc ça reste encore du domaine de l'improbable, on va dire. The Hulk, je doute qu'il crève, tout simplement parce que d'un point de vue marketing,
faut y arriver déjà.
Voilà, déjà il faut le tuer, puis en plus d'un point de vue marketing, c'est juste la grosse poule aux œufs d'or pour Marvel.
Et c'est la grosse surprise, hein. C'est la grosse surprise pour eux quand même.
C'était le personnage le plus populaire dans le premier film Avengers, donc je doute qu'ils décident de l'éliminer. Par contre, il est fort probable qu'il se retrouve peut-être exilé, voire exilé dans l'espace, qui pourrait faire une connexion avec les Guardians of the Galaxy, qui sait.
C'est ça.
Scarlet Witch, je doute aussi qu'elle disparaisse dans le film où elle apparaît. Pareil pour Quicksilver, même si ça pourrait être justement un déclencheur de quelque chose, la mort de Quicksilver pourrait avoir un impact important sur le revirement de Scarlet Witch justement, donc pourquoi pas, peut-être que Quicksilver nous quittera déjà à l'issue de Age of Ultron. Vision, C'est possible, on en avait déjà parlé quand on a fait le focus. Hein.
Le sacrifice honorable, ouais.
Voilà,
le
tout
sacrifice,
à fait.
Parce qu'il aime bien, c'est dans sa pensée, il va se retourner contre Ultron et obligatoirement il va tenter de faire quelque chose et il pourrait se retrouver en morceaux, mais après Vision est reconstructible, donc c'est pas un souci.
Ok, c'est un peu le running gag, on pense qu'il va mourir à chaque fois et puis
Mais Clint est mort plein de fois, c'est ça le truc, c'est ça. Et le problème de Clint Barton, c'est que, surtout avec Scarlet Witch, dont il a eu un crush, il a eu un crush assez violent sur la Rockin à une époque, il est mort plusieurs fois. Et du coup, bon, est-ce que Clint il va finir dans 6 pieds sous terre pour revenir plus tard, ou est-ce qu'il y aurait un Hawkeye fille, parce qu'il y a eu un Hawkeye femme à une époque aussi, qui était une apprentie de Clint justement, qui a gardé d'ailleurs le titre de Hawkeye, donc il y a 2 Hawkeye dans Marvel. C'est possible, moi ça me dérangerait pas que Clint meure et qu'il revienne plus tard, ou qu'on change de Clint, même si j'aime bien Jeremy Renner, parce qu'il est assez fandard, mais
qui sait,
ça pourrait être le truc, ouais, ça pourrait être le support qui meurt à la manière d'un Coulson dans Avengers.
Et puis il reste dernier candidat qui pour moi est le plus plausible en termes de ressort dramatique, c'est Rhodey, c'est Iron Patriot, donc je vois bien passer l'arme à gauche et être une sorte de déclencheur du côté de Stark, de vouloir justement réactiver le projet Ultron. Ça pourrait être un bon déclencheur de début de film, surtout qu'on sait qu'un Iron Man 4 est fort peu probable avant très très longtemps.
On parle de 2020 hein, pour prochain Iron Man, donc
voilà, et que je vois pas Iron Patriot revenir d'ici là. Donc ça reste un candidat tout à fait plausible. Peut-être qu'on sera surpris et peut-être que personne ne mourra dans Age of Ultron. Ça serait un choc.
Faut pas oublier que c'est du Disney, tout finit bien à la fin.
Oui, et puis de toute façon c'est Marvel, donc les gens qui sont morts sont jamais vraiment morts non plus, n'est-ce pas, Coulson?
Touche pas à Coulson, il est bien Phil.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, drop my needle. C'est l'heure de notre petite pause musicale tirée du MCU. Le mois dernier, on avait fait une petite entorse en écoutant des musiques de bande-annonce. Ce mois-ci, c'est Fox qui a fait une petite sélection et qui nous vient avec un extrait de la bande-son d'Iron Man 2.
Ouais, je reviens avec Iron Man 2, ce qui est un morceau que vous allez écouter là, qui est de John Dibney, qui s'appelle New Element Particle Accelerator, qui est un morceau assez long. Il dure plus de 5 minutes, presque, oui, 6 minutes et quelques. Et c'est un morceau très ambiant en fait, qui est très smooth, qui a des petites envolées, qui est un vrai morceau d'ambiance, qui est utilisé pendant qu'il construit justement l'accélérateur de particules, et qui fait ses recherches pour justement avoir le nouveau réacteur au vibranium. Et vraiment c'est un morceau qui est cool, qui est smooth, qui vous allez pouvoir écouter tranquillement en bossant ou en vous déplaçant. Et je me suis dit, ouais, pour changer après avoir tout gagné au jeu 2014 avec Thor, je peux commencer tranquillement.
Voilà, donc un morceau smooth pour un film dont le tournage ne l'était pas vraiment.
Ah non.
Thank you. John Debney, donc sur la bande son d'Iron Man 2, New Element Particle Accelerator. Merci Fox donc d'avoir fait cette petite sélection. Le mois prochain, c'est moi qui m'y colle. Je sais pas encore ce que je vous ferai écouter d'ailleurs. Peut-être qu'on reviendra au premier Iron Man. Tiens, pourquoi pas.
I am MODOK. I am science. I am genius.
I am Science, la voix de notre MODOK adoré qui nous annonce donc que c'est l'heure de faire notre petit focus. Comme chaque mois, on s'intéresse à un personnage, une organisation, un arc des comics pour essayer de vous permettre d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe dans les films. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler des Twins, les jumeaux Scarlet Witch et Quicksilver, puisqu'ils auront une part manifestement importante dans le film Age of Ultron. On s'est dit qu'il était temps de vous en parler et de vous faire un petit peu le topo sur ces deux mutants qui n'en seront pas vraiment dans le MCU. C'est eu, mon cher Fox.
Ah bah non, ils seront pas des mutants, mais déjà bon face qu'ils ont. Ils ont commencé quand déjà les Twins? Ils sont arrivés en quelle année? Parce que c'est ça remonte.
Alors,
hein, quand même.
Ils sont arrivés chez les mutants justement. Ils sont arrivés en 64 dans le numéro 4 des. Uncanny X-Men, si je dis pas de bêtises. Et c'est des persos qui ont été présentés d'abord sans vraiment d'explication sur leurs origines. Ça se faisait souvent à l'époque, hein. On jetait des personnages et puis on s'intéressait à leurs origines plusieurs numéros plus tard, voire plusieurs années plus tard. Et là, donc, on les a vus pour la première fois aux côtés d'un certain Magneto.
C'est ça, parce que les Twins sont arrivés face aux X-Men avec Magneto. Ils faisaient partie de la confrérie des mauvais mutants, Brotherhood of Evil Mutants. Et ils étaient vraiment très en colère quand ils sont arrivés, parce que ils ont grandi dans un bled donc en transi, où ils étaient totalement détestés par la population, et Magneto les a recueillis. Du coup, les mecs, les Twins étaient plein de haine. Ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le tas avec les X-Men. Il y a eu beaucoup de bastons.
Alors il faut savoir qu'en fait ils ont été sauvés en fait par Magneto, puisque gros ils se sont rendus compte un beau jour qu'ils avaient des super pouvoirs, et ça s'est pas super bien passé avec les gens du village du coin, qui les ont donc accusés de sorcellerie, etc., et qui voulaient brûler donc Scarlet Witch, en l'occurrence Wanda Maximoff.
C'est ça, parce qu'ils ont été élevés par des gitans, le couple Maximoff, ouais. Donc ils vivaient de manière nomade dans leur coin, tout ça, et quand leurs pouvoirs se sont révélés, le problème c'est que Wanda, avec ses pouvoirs un peu incontrôlables, a cramé la moitié du village et sa maman adoptive dedans, et les gens ont pas du tout apprécié. Du coup, ils ont essayé de leur faire la peau et de brûler Wanda.
Voilà, et c'est là que Magneto est arrivé, les a sauvés et les a embarqués avec lui dans la Brotherhood of Evil Mutants. Donc jusque là, on savait pas trop qui ils étaient, et puis on a découvert un peu plus tard, aux surprises, qu'en fait ils avaient un lien de parenté avec Magneto.
Eh oui, le lien de parenté, c'est que Magneto est en fait leur papa. C'est leur gentil papa poule. Ils ne le savent pas au début. Magneto ne sait pas non plus qu'il a des enfants, parce que leur mère, Magda, qui est une femme qu'on ne verra plus après, parce qu'elle va décéder peu de temps après l'accouchement, a fui son mari, qui s'appelait alors Max, qui vivait sous une identité un peu différente, mais elle avait fui son mari parce qu'elle en avait peur, pour accoucher dans un endroit un peu paumé, qu'on appelle le mont Vundagor, qui est une montagne connue pour être un peu particulière en transi, pour y accoucher à l'insu de Magneto, donc il ne savait pas du tout qu'il allait être papa. Elle a confié ses enfants à Bova, qui est un être créé par le High Evolutionary.
Tiens donc.
Le High Evolutionary, qui avait un centre sur cette montagne, et il avait créé différents humains, dont Bova, qui était chargé d'élever ses frères modifiés. Donc Bova est une femme vache, hein, une nourrice. Elle va élever les petits, Magda va partir et mourir de froid en fuyant son mari, et eux ils vont être élevés par Bova jusqu'au jour où ils vont être récupérés par justement le couple Maximoff, qui vont les élever comme leurs enfants jusqu'à l'adolescence.
Et donc après ils vont être récupérés par Magneto, qui va les inviter donc à rejoindre la Brotherhood. Ça va plutôt bien se passer, même si à plusieurs reprises ils vont manifester l'envie, surtout Quicksilver d'ailleurs, de se désolidariser même carrément des actions de Magneto, qui perçoivent de plus en plus comme un fou furieux. Et puis un jour il va y avoir un incident de mémoire avec Iceman qui va frigorifier Quicksilver, et ça va être un peu la goutte d'eau, et là ils vont vraiment décider de se barrer. Ils vont quitter la Brotherhood, ils vont vouloir retourner en Europe, dans leur pays famille pays d'origine. Ils vont disparaître un peu de la circulation et puis on va les voir réapparaître avec une soudaine volonté de vouloir faire le bien en fait, mais sans être impliqués dans les conflits des X-Men.
C'est ça, ils veulent pas du tout rejoindre les mutants parce que les mutants c'est la guerre de Magneto et ils veulent pas être confrontés à Magneto voilà. Avec son idée de suprématie des mutants. Du coup on va les retrouver directement chez les gentils neutres, c'est-à-dire les gentils qui ont pas plus d'idées politiques que ça, c'est-à-dire les Avengers à ce moment-là.
Tout à fait, et donc ils vont rejoindre les rangs des Avengers. Ils vont notamment avoir une histoire dont on avait déjà parlé entre Vision et Scarlet Witch qui va devenir son mari bien plus tard, donc avec qui ils auront même des enfants, mais on se rendra compte qu'en fait finalement tout ça n'était qu'une illusion. Bref, ils vont rejoindre globalement les Avengers et vont faire partie intégrante de l'équipe avec cette volonté donc de faire le bien.
Ils vont vraiment s'installer, oui, ce sont des véritables Avengers, même s'ils ont bougé 2-3 fois d'alignement parce qu'il y avait certaines raisons qui les ont poussés à le faire. C'est toujours des Avengers et ils font partie des plus anciens Avengers.
Ouais, tout à fait. Pour parler un peu en deux mots des personnages en eux-mêmes, on en a déjà parlé, mais on peut y revenir. Scarlet Witch donc et Quicksilver entretiennent une relation très forte en fait dans les comics, frères et sœurs, mais vraiment fusionnels.
Ce sont des jumeaux fusionnels, mais vraiment poussés à l'extrême, c'est-à-dire que Wanda est connue pour être instable mentalement et émotionnellement. Pietro, lui, est quelqu'un de très impulsif. C'est dû à ses pouvoirs de vitesse aussi. C'est vraiment calqué sur sa personnalité.
Alors justement, les pouvoirs, parlons-en, puisque Scarlet Witch, donc, elle a des pouvoirs qui sont plus liés à la magie, en fait.
Elle a deux pouvoirs, en fait. Parce que sur le mont Wundagore, où il y avait le Hall Evolutionary, sur ce mont Wundagore, il y avait un démon qui était enfermé à l'intérieur, Kton, ou Chton, selon qu'on veut le prononcer, qui est un ancien dieu primordial, qui est devenu un démon. Et quand Magda a accouché, Kton est entré en contact avec l'esprit de Scarlet Witch et lui a transmis une partie de ses pouvoirs. Ce qui fait que le principal pouvoir de Wanda, c'est d'altérer le champ des probabilités, c'est-à-dire que elle peut non pas modifier ce qu'elle veut comme elle veut, mais elle altère le champ des probabilités, c'est-à-dire que s'il y a un morceau de fer par exemple quelque part, elle va le cibler et elle va augmenter la probabilité que ce morceau de fer par exemple tombe à l'état liquide ou prenne feu. Ça va avec toutes les matières. C'est comme ça qu'elle peut transformer un peu n'importe quoi, n'importe comment. Mais à côté de ça, elle dispose de ce qu'on appelle les X, qui sont des sorts, qui sont des émanations du pouvoir de Kton mélangées à ses propres pouvoirs. Et du coup, ça lui permet d'obtenir des résultats à très très haut niveau d'utilisation de la magie. Elle est même plus forte que Doctor Strange à certains moments, parce que Doctor Strange n'arrive pas à plusieurs reprises à défaire certaines des illusions et des sorts qu'elle crée.
Elle est considérée comme étant la plus puissante, en tout cas une des plus puissantes mutantes de l'univers Marvel.
C'est une mutante de classe S, mutante de classe S. Après, c'est les Oméga, il y a très peu de niveaux Oméga, il y a notamment le fils de Cyclope et Jean Grey, mais les Oméga ne contrôlent pas leur pouvoir. Donc elle est au-dessus niveau magique, elle est au-dessus de quasiment tout.
Et ce pouvoir d'altérer les probabilités, justement, c'est ce qui va lui permettre d'altérer de manière générale la réalité, en fait.
C'est
ce
ça.
Qui va être l'arc principal donc de House of M, dont on va reparler juste après avoir fait un survol rapide des pouvoirs de Quicksilver.
Quicksilver, c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est un perso qui est beaucoup plus en retrait. Pietro est toujours, j'allais dire, le sidekick de sa sœur, mais c'est même pas le sidekick, c'est vraiment un support de sa sœur. Il est un support moral, il est un support physique. Il fait énormément de choses pour la protéger et en même temps, lui, il a envie de s'émanciper, mais il peut pas l'abandonner. Lui, ses pouvoirs, c'est simple au début, parce qu'après, ses pouvoirs vont quelque peu changer, mais au début, c'est la vitesse pure. C'est-à-dire qu'il peut atteindre, au début, c'est la vitesse du son, et en grandissant et au fur et à mesure de son évolution au sein du Marvel Universe, il va pouvoir atteindre une vitesse de Mach 5 en se déplaçant, ce qui fait qu'il crée des tornades, des énormes bourrasques, il peut éviter les Energy Blast, parce qu'il va tellement vite qu'au final, il est dévié par sa vitesse.
Voilà, c'est un peu l'équivalent de Flash chez DC, en fait, pour ceux qui connaissent un peu mieux l'univers
de Flash,
DC.
Tout
ouais.
à fait.
Et on l'a vu déjà dans Days of Future Past, donc il y a une version de Quicksilver un petit peu overpowered, comme on dit, hein, dans Days of Future Past, qui sera probablement pas aussi puissant dans Age of Ultron, mais en tout cas qui rendait bien l'idée que voilà, il peut se déplacer très 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 vite avec tous les avantages que ça peut avoir. Du coup, House of M, qui est donc un des arcs des comics les plus importants, en tout cas concernant Scarlet Witch et Quicksilver, qui est un arc en fait qui est justement lié à l'instabilité émotionnelle de Scarlet Witch.
C'est vraiment l'arc central des Twins qui se divise en trois parties. Il y a House of M, ensuite il y a Décimation et après il y a Son of M. House of M, c'est vraiment l'arc de Wanda. C'est Wanda est en train de perdre le contrôle total de ses pouvoirs, donc c'est en train de partir totalement en sucette. Elle vit recluse plus ou moins sur l'île de Genosha, qui est une île, on en a déjà un peu parlé, mais qui est une île,
mutants, ouais.
Voilà, l'île des mutants qui est près de Madagascar. Et à cet endroit-là, donc elle est placée en stase par le Magneto, son père, et le professeur X, donc professeur Xavier, et ils essayent de la soigner, de lui rendre le contrôle de ses pouvoirs.
Voilà, et parallèlement à ça, en fait, il y a des réunions qui sont tenues par les Avengers notamment et puis
et
par les X-Men. Où en gros ils décident tous plus ou moins d'un commun accord de l'éliminer en fait, en se disant on peut pas la contrôler.
Ils envisagent que s'ils trouvent pas une solution, même si beaucoup d'Avengers et de X-Men veulent trouver une solution d'abord, il y a une frange qui est dirigée par notamment Wolverine qui y va à contre-cœur, mais il dit si on n'a pas d'autre option, faudra qu'on la bute.
Alors sans vous spoiler le reste des arcs qu'on vous invite à lire, hein, parce que House of M, Son of M et
c'est
Decimation,
vraiment des
c'est
grands
vraiment
arcs
chouette.
De... Ouais.
Sans vous spoiler, l'idée de départ, c'est que apprenons donc on cherche à l'éliminer Wanda Maximoff, Scarlet Witch donc va complètement altérer la réalité, créer un monde dans lequel personne n'aura envie
ont
de
gagné.
Voilà, dans lequel
les
personne n'aura envie
gagné,
de la tuer et dans lequel tout se passe bien et dans lequel justement les personnages ont des alter ego différents, notamment Spider-Man qui est un des premiers qu'on découvre
Spider-Man
dans l'arc.
Spidey est marié avec Gwen Stacy, il est heureux, il est célèbre. En fait, elle a créé un monde où chaque mutant et chaque être humain a ce qu'il voulait, en fait. Du coup, les désirs les plus enfouis de chaque mutant et de chaque super-héros est réalisé dans ce monde-là. Elle fait partie de la maison de M, donc la maison de Magneto, et il dirige plus ou moins le monde et le monde des mutants, alors que les mutants sont majoritaires sur Terre.
Voilà, et forcément tout ça ne va pas se passer comme prévu, mais on vous spoilera pas la suite, on vous invite à aller lire House of M. Parler en deux mots, avant de s'attaquer au MCU, de Axis, qui est un arc récent dans les comics, où on a appris notamment qu'il serait... probable, voire peut-être confirmé, même je suis pas complètement à jour, donc je peux pas vous dire, mais en gros on a des soupçons sur le fait que Magneto ne serait finalement pas leur père et qu'en fait Scarlet Witch et Quicksilver ne seraient peut-être pas finalement des mutants. On parle notamment de la probabilité qu'ils soient en fait des Inhumans, donc ce qui arrangerait bien tout le monde chez Marvel Studios, ça leur éviterait d'avoir à payer leur dîme à Fox pour utiliser les personnages dans un avenir proche. Alors après, bon, l'arc n'est pas fini, on n'en sait pas plus pour le moment, ça a été plus une espèce de cliffhanger, donc comme je ne suis pas à jour et que je voudrais pas vous spoiler éventuellement d'autres déroulements d'Axis, bon voilà, je voulais le mentionner parce que ça pourrait avoir son importance pour la MCU s'il s'avère que ces deux personnages ne sont finalement pas des mutants. Et puisqu'on parle du MCU, je propose qu'on embraye justement avec leur version dans le MCU, version sur laquelle on sait finalement pas encore grand chose en fait.
Mais on a très peu d'infos, parce qu'on ne connaît toujours pas leur origine. Le pays où on les voit dans le trailer, moi je reste persuadé que c'est la Transie, donc leur pays d'origine, parce qu'on voit que c'est écrit dans le langage en cyrillique, que ça a l'air d'être un pays relativement russophone, ou du moins pays de l'Est, pays des Balkans.
Ça a été à demi-mot confirmé par Elisabeth Olsen dans une interview récente qu'elle a donnée au magazine Empire, où elle disait qu'en fait, en gros, ils étaient originaires d'un pays qui s'oppose aux États-Unis, ou en tout cas qui voit les États-Unis comme un peu la source de tous les mots, et ce qui renforce un peu ce côté pays d'Europe de l'Est. Donc ouais, ça pourrait être la Transie effectivement, ce pays imaginaire.
La Transie qui serait en plus une modification, dire qui serait une révision de l'Ukraine moderne, avec tout ce qui s'est passé en Ukraine. Et vu que Magneto et Magda vivaient en Ukraine dans le comics au départ, on pourrait se dire que voilà, ils ont refait un petit peu de politique et de géopolitique, et ils nous ont fait un petit melting pot pour refaire la Transie.
Tout à fait. Alors au niveau des pouvoirs, on sait déjà, mais ça depuis très très longtemps, ça avait été précisé dès l'annonce en fait de l'apparition des personnages dans le film, que ils seraient globalement assez nerfés, notamment au niveau de Scarlet Witch, donc leur pouvoir serait réduit par rapport au pouvoir qu'ils ont dans les comics, ce qui s'explique quand même assez facilement, hein, parce que c'est quand même, enfin, Scarlet Witch est une...
Elle les aurait massacrés.
Voilà, c'est juste un personnage ingérable d'un point de vue narratif, donc c'est compliqué d'avoir un personnage aussi surpuissant dans un film. Donc je pense que tout ce qui est manipulation de l'esprit, manipulation de la réalité, des probabilités, etc., sera présente dans le film, mais
ça va aller crescendo, à mon sens. ça va aller crescendo parce qu'ils sont retenus prisonniers par Hydra au départ.
Oui. Alors voilà.
Ils connaissent pas encore trop bien leurs pouvoirs. Je pense qu'ils vont les appréhender vraiment pendant le film. Ça va aller crescendo jusqu'à ce qu'il y ait un niveau où il soit suffisamment gentil pour avoir des pouvoirs très forts,
voilà.
Et donc qu'il soit maîtrisable scénaristiquement parlant, quoi.
Ce que j'allais dire justement, donc au niveau de leur origine, on les a vus pour la première fois apparaître dans la button scene donc de Winter Soldier à la fin captif d'Hydra. On sait globalement, d'après ce qu'on a pu voir dans les trailers, qu'ils seraient dans un premier temps du côté d'Ultron dans le film et qu'après probablement pour un événement qui pour le moment est encore inconnu, moi je mise sur la mort, en tout cas la mise en danger de Quicksilver pour les faire changer d'avis, les faire changer de camp et donc rejoindre les Avengers à ce moment-là. Y a des liens possibles avec les Inhumans, même si Kevin Feige a maintes reprises répété qu'ils ne seraient pas des Inhumans dans le MCU. Bon, voilà, j'ai la confiance limitée en ce que dit
ce monsieur. Il y a un très fort lien de façon entre Quicksilver et les Inhumans, vu que Quicksilver a été marié à Crystal et papa de Luna, il a volé les cristaux terrigènes.
Voilà, donc soit il pourrait avoir une origine Inhumans, ce qui expliquerait qu'on les introduise aussitôt en fait dans l'MCU via Agents of S.H.I.E.L.D. soit ça pourrait aussi être tout simplement des recherches, enfin le résultat des recherches d'Hydra. Donc là il faudra voir en fait, quand on aura plus d'infos. Pour le moment c'est très très difficile de savoir exactement d'où ils viennent, et peut-être qu'on n'aura pas plus d'infos détaillées sur leurs origines dans le film, ce qui pourrait être aussi une possibilité. Il y aura peut-être encore une part de mystère autour des personnages. Je pense que si les personnages cartonnent, on les reverra, donc je pense que ce seront pas des personnages one shot, en tout cas en ce qui concerne Scarlet les Twitch. Je suis plus sceptique sur le sort de Quicksilver. J'ai vraiment l'impression qu'il va surtout servir de ressort dramatique en fait, qui va permettre donc de faire basculer Scarlet Witch d'un côté d'un camp à l'autre.
C'est un peu son rôle dans les comics aussi. Voilà. Il est très souvent en ressort dramatique. Dans Son of M, c'est un ressort dramatique. Enfin, c'est un perso qui est toujours en balance par rapport aux sentiments de sa sœur. Donc, si sa sœur est en danger, on va le voir plus dans un comics. Si sa sœur va bien, on le verra quasiment plus, mais il la suivra quoi qu'il arrive.
Voilà. Donc ça, c'était pour le tour des Twins dans le MCU. On n'en sait pas plus pour le moment. Moi, ce que je peux juste rajouter en conclusion, c'est de vous inviter à lire un arc très court, en fait, qui est fait partie de la série Avengers Origin, qui est une série assez récente chez Marvel Comics et qui, comme son nom l'indique, explique les origines des Avengers. Et notamment, donc, il y a un recueil sur Scarlet Witch et Quicksilver qui est pas extraordinaire, on va pas se mentir, mais qui, disons, résume de manière plutôt claire et cohérente le parcours des jumeaux dans l'univers Marvel jusqu'à leur arrivée donc chez les Avengers, en passant par leur association avec Magneto, la découverte de leur pouvoir, etc. Ça se lit assez vite, c'est un seul volume, donc voilà, c'est sorti en 2013, ça s'appelle Avengers Origins Scarlet Witch and Quicksilver, si vous voulez approfondir votre connaissance des jumeaux.
He's a spy. He's the spy. His secrets have secrets.
Marvel Insiders et News Marvel en vrac en dehors du MCU, pas mal de choses à dire en fait ce mois-ci, notamment autour des Fantastic Four. Alors on a eu, c'est un peu le chaud et le froid en fait, hein, du côté des Fantastic Four. On
T'as
a d'abord
vu du
eu...
chaud quelque part.
Bah, on va en reparler, mais le trailer m'a plutôt rassuré en fait. Mais on va en reparler.
Mais...
Dans un premier temps, je voudrais juste, chronologiquement en fait, on a d'abord eu des échos très très négatifs en fait, donc apparemment des sources anonymes, mais apparemment proches.
Ils voulaient pas perdre leur emploi, mais que leur froid.
Mais donc, proche du studio aurait expliqué que des grands pontes de la Fox considéraient que le film était un désastre, que c'était une catastrophe et que c'était la raison pour laquelle il y avait eu des reshootings très récemment, et c'était aussi la raison pour laquelle on n'avait pas vu grand chose encore du film, c'est-à-dire en gros, on n'avait rien vu. Ça a été démenti par Kinberg, donc qui est le scénariste attitré du projet, qui est le monsieur qui a bossé sur Days of Future Past, mais qui a aussi signé le détestable Last Stand. Donc quand Kinberg dit que tout va bien, moi j'ai pas vraiment forcément envie de le croire.
Non, mais c'est...
Donc en gros, il y a quand même une aura assez négative qui flotte autour de ce projet, jusqu'à ce qu'arrive la bande-annonce qui a débarqué donc cette semaine, en début de semaine, qui a eu l'avantage quelque part quand même de me rassurer, en tout cas d'un point de vue esthétique. Je trouve que l'esthétisme de la bande-annonce est vraiment chouette.
C'est un magnifique landscape escape de 2 minutes. Hein,
oui,
c'est des paysages. Il y a des héros. Non, des paysages.
Après, effectivement, voilà, gros bémol, on n'a pas du tout vu les pouvoirs en action. Maintenant, je peux le comprendre. C'est un teaser. Ils sont très attendus sur la représentation des pouvoirs, parce qu'il faut savoir qu'au cinéma, les Fantastic Four, la représentation des pouvoirs, ça a jamais vraiment été une grande réussite. Notamment The Thing, qui est quand même un personnage qui est particulièrement difficile à représenter au cinéma. Alors, on est aujourd'hui à l'ère d'un Rocket Raccoon, donc tout est possible, mais c'est vrai que l'époque des deux premiers films, avec Michael Chiklis, c'était pas une grande réussite.
C'était pas une grande réussite, mais le premier Fantastic Four était sympathique pour un film de super-héros. Bon, Chris Evans, il a fait Transfuge, il est parti chez Marvel.
Oh, c'était un film sympathique pour qui ne s'intéresse pas du tout aux comics, en fait, parce que les personnages étaient quand même globalement pas terribles, surtout Docteur Doom qui était vraiment catastrophique. Et le fait qu'on
Julian
ne voit
McMahon.
Pas. Voilà. Le film qu'on ne voit pas de Doom dans cette nouvelle bande-annonce me rassure pas forcément sur le personnage, vu qu'on avait eu des images qui avaient fuité du tournage et où il avait un costume qui était quand même pas très très réussi. Donc voilà, mitigé.
Moi j'ai peur que
ce
soit Carnaval.
Je me dis que comme les attentes étaient tellement basses, finalement la bande-annonce ne pouvait que rassurer. Mais je suis malgré tout toujours pas convaincu par le projet. J'attends de voir d'en voir un peu plus. J'attends de voir le film en fait finalement, parce que là pour le moment, sachant que c'est Kinberg qui a signé le scénario et que j'aime pas du tout ce qu'écrit le monsieur, j'ai pas aimé Last Stand, j'ai pas aimé Days of Future Past. Donc j'espère qu'il aura sorti le grand jeu pour Fantastic Four et qui nous servira donc un premier grand film Marvel chez la Fox. Ce serait vraiment pas mal.
Je suis pas convaincu. Le trailer pour ma part m'a pas du tout rassuré. J'ai bien aimé Days of the Future Past. Last Stand, bon,
voilà,
mais
hein.
Ouais, non, mais Last Stand quoi. Voilà, mais Days of the Future Past, j'avais bien aimé, notamment grâce à Fassbender, parce que Fassbender et Jennifer Lawrence qui est vraiment pas mal. Mais Fassbender a vraiment ce truc de tenir son rôle. Il est vraiment excellent dedans, mais le trailer m'a pas rassuré du tout. Parce que le landscape, on voit les héros juste à la fin. C'est assez bizarre les trucs dont c'est amené. On dirait la cuve de la Vita Chamber de Captain America. On sait pas, je sais pas où ils veulent aller en fait. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire des New Fantastic Four très jeunes, comme dans le comics. Dans le comics, ils les ont butés. Ils se sont pas emmerdés. Ils ont fait la peau. Mais je sais pas, ça m'inquiète et ça m'emmerde en fait de voir que la Fox continue de s'acharner à vouloir faire des films pour garder les noms Fantastic Four et garder ses licences, alors qu'au bout d'un moment on voit bien sur les derniers que même si Days of the Future Past est sympathique et Apocalypse sera peut-être cool, ils maîtrisent pas complètement totalement le truc et qu'il ferait mieux de passer la main ou de faire une coprod ou de bosser vraiment plus là-dessus que faire des trucs un peu faciles quoi.
On va pas se mentir, hein, depuis que Kevin Feige est devenu le big boss de Marvel Studios et qu'il a lâché son poste d'assistant de Bryan Singer, on a senti quand même la différence. Hein.
Ah
c'était
bah oui.
à la suite de X-Men 2 où il, manifestement frustré par l'expérience, il s'est dit bon, si c'est comme ça, je vais faire mes films moi-même.
Le film était ultra frustrant déjà, voilà. X-Men 2, ultra frustrant, même si je l'adore. Après le 3, bon, on oublie.
On verra. On aura probablement plus d'images, plus d'infos et plus de trailers d'ici la sortie du film cet été. Donc voilà, on croise les doigts pour que ce soit bien, mais on reste quand même malgré tout assez sceptique. X-Men Apocalypse, puisque tu en parlais, confirmation de casting donc pour les trois personnages rebootés, on va dire, puisqu'en fait ce seront les versions jeunes dans les années 80 de Cyclops, Storm et Jean Grey. Donc on aura Sophie Turner de Game of Thrones pour Jean Grey, Alexandra Shipp que je ne connaissais pas mais qui apparemment a interprété le rôle d'Aya,
qui joue Alia, ouais, qui
Alia
joue,
pardon, dans The Princess of R&B,
ouais.
Et Ty Sheridan donc qui jouera le rôle de Cyclops et qu'on avait pu voir dans The Tree of Life. Voilà,
Sophie Turner en Jean Grey, je suis plutôt content de voir que elle sort de Game of Thrones. C'est pas une mauvaise actrice.
Ouais, mais de toute façon, en connaissant Singer, on va aller voir 2 minutes faire pif paf et puis disparaître ou se faire buter. Donc je ne sais pas si c'est vraiment
important. Ça va me saouler. Oui, mais c'est Singer, ça va me saouler. Bon,
et puis dernière news dont je voulais vous parler, on a appris la sortie prochaine d'un nouveau Lego Marvel, en l'occurrence un Lego Marvel Avengers qui devrait être officiellement confirmé tout bientôt. On sait pas encore quand est-ce qu'il va sortir ni ce qu'il contiendra exactement, mais vu que le Lego Marvel qui était sorti l'année dernière ou il y a 2 ans était vraiment vraiment chouette, je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont faire avec les Avengers. Donc voilà, ça c'était la petite news jeux vidéo pour clôturer cette rubrique Marvel Insiders.
Allez, pédé, y a une lettre pour vous. Tenez, bonne bourre. Pauvre con, hein.
Thank you. Et puisqu'il nous reste du temps, ben on va profiter pour répondre à 2-3 questions de nos chers auditeurs. On a eu 3 questions via Twitter ce mois-ci. La première question nous vient d'Eric qui nous dit « Salut les gars, je me demandais si on verrait Crimson Dynamo dans la MCU et plus précisément dans Agent Carter. » Alors oui, pourquoi pas, puisque le personnage de Vanko qu'on avait vu dans Iron Man 2 était déjà un croisement en fait entre Whiplash et Crimson Dynamo. C'était un peu c'était Whiplash avec des empreintes Crimson Dynamo, mais on a Anton Vanko effectivement dans Agent Carter, qui est donc le vrai Crimson Dynamo dans les comics, donc c'est tout à fait possible. Maintenant, on en est déjà à l'épisode 5, on l'a plus revu, on n'a pas vu d'évolution du personnage, etc., donc ça tomberait un petit peu comme un cheveu dans la soupe.
Je pense qu'on va le voir à la fin, Vanko. Je pense que c'est lui qui a fait en sorte que les inventions de Stark soient volées, en fait.
Peut-être, ou alors ce sera peut-être une révélation pour une éventuelle saison 2, mais en tout cas, je le vois pas avoir un rôle majeur dans cette première saison, même si effectivement le fait qu'on ait introduit le personnage n'est probablement pas complètement innocent quand on connaît Marvel. Deuxième question qui nous vient de Silario, toujours de Twitter, où en est la rumeur du crossover Daredevil et Agents of S.H.I.E.L.D. etc., les autres séries du MCU. Alors je suis pas certain qu'il y ait eu vraiment une rumeur à ce sujet là, je sais que la question a souvent été posée au moment où ils ont annoncé les séries Netflix, de savoir s'il y aurait des crossovers avec Agents of S.H.I.E.L.D. notamment. Pour ma part, je pense que c'est possible, mais vu les structures de production, les canaux de diffusion, le fait que ces séries soient spécifiquement sur Netflix et Agents of S.H.I.E.L.D. et Agent Carter soient spécifiquement sur ABC, même si on retrouve ABC et Marvel à la prod des deux, je pense que ça va être plus compliqué de faire des crossovers, et je pense que les séries Netflix vont avoir cette volonté d'exister en tant que telles pour mener justement vers les Defenders, donc cette mini-série où elles se rejoindront toutes, plutôt que de partager complètement l'univers du MCU. Maintenant, rien n'empêche d'avoir des caméos, des petits nudges.
Je pense qu'il y aura des nudges, ils vont les citer, je pense,
ne serait-ce que pour les
informations et le reste de trucs, ils vont en parler parce que ça fait la continuité.
Tout à fait. Surtout s'il y a un Civil War qui va les impliquer d'une manière ou d'une autre. C'est ça.
Et puis je désespère pas d'avoir Agents of S.H.I.E.L.D. et Agent Carter arriver sur Netflix France un peu plus tard.
C'est possible, ouais.
Donc du coup il y aurait un lien de distribution et ils vont obligatoirement en parler. Ils sont obligés de rester dans cette continuité parce que sinon l'univers perd vraiment sa cohérence.
Tout à fait. Mais je pense que s'il y a des crossovers, ce sera plutôt au niveau des films en fait qu'au niveau des Agents of S.H.I.E.L.D. Je pense que les séries vont vraiment continuer d'exister chacune de leur côté avec des points centraux et des points d'ancrage au niveau des films, et notamment Infinity War qui s'annonce comme étant une espèce de gros point culminant de toute cette mise en place à la fois au cinéma et à la télé. Dernière question qui nous vient d'Alex Light, toujours sur Twitter. Pensez-vous aujourd'hui qu'il est envisageable de remplacer l'acteur derrière un costume, où les acteurs sont inséparables du personnage et par conséquent remplacer les personnages au sein des Avengers? Alors c'est une très bonne question. Je dirais que non, en fait. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui pour Marvel Studios de remplacer les personnages. Je vois mal quelqu'un reprendre le rôle de Tony Stark, surtout après un Robert Downey Jr. Et je pense qu'il en va de même pour les autres qui commencent vraiment à être indissociable en fait de leur personnage, que ce soit Chris Evans, même Ruffalo dans le rôle du nouveau Hulk. Par contre, là où je pense qu'il y a moyen de ruser, c'est au niveau des personnages concept en fait, donc le fait que Iron Man dans les comics ne soit pas tout le temps Stark, mais soit notamment dans les West Coast Avengers par exemple,
c'est Rhodey
en fait. Donc il est tout à fait possible d'interchanger en fait le concept, la symbolique du personnage avec d'autres héros derrière, et donc forcément d'autres acteurs, comme le fait que Falcon devienne Captain America dans les comics pourrait aussi être une piste pour remplacer Chris Evans.
Bucky l'a été aussi, voilà. Le Punisher a été Captain America aussi, ce qui était assez le bordel d'ailleurs.
Tout à fait, ouais.
J'avais beaucoup aimé, mais
donc je pense pas qu'ils vont nous faire une Bond dans le sens où ils vont nous remplacer Tony Stark, enfin Robert Downey Jr. par quelqu'un d'autre pour incarner Tony Stark. Mais par contre, le fait que le super-héros en fait est dissociable du personnage, là il y a quelque chose à jouer, et probablement que c'est ce qu'ils sont en train de préparer aussi, hein, le fait que l'acteur qui joue Winter Soldier est signé pour 9 films, je pense, est pas complètement innocent, et on en avait déjà parlé. Je pense qu'à terme ils envisagent effectivement de l'utiliser autrement qu'en incarnant Winter Soldier, donc pourquoi pas Captain America.
On en a parlé tout à l'heure aussi avec Hawkeye, hein, ouais. Hawkeye, il y a deux Hawkeye, parce qu'il y a eu aussi la jeune femme, j'ai plus son nom déjà, qui était l'apprentie de Clint, qui devient aussi Hawkeye puisqu'elle porte le costume quand lui n'est pas là. Donc c'est possible, le costume en lui-même ne change pas, c'est le personnage en lui-même. C'est sûr que Stark, Rogers et d'autres vont rester accrochés les images de Robert Downey Jr. ou Chris Evans, mais les costumes, ils peuvent être interchangeables.
Voilà qui clôture donc notre session courrier. Je vous rappelle que si vous voulez vous aussi nous poser des questions, vous pouvez le faire par mail en nous contactant via le site lesclairvoyants.net ou bien via Twitter @lesclairvoyants, et on sera un plaisir de répondre dans le prochain podcast. Et c'est déjà la fin de ce 8e épisode des Clairvoyants. On a fait un petit peu plus long que d'habitude, on s'en excuse, mais on voulait vraiment absolument vous parler des Twins, faire un peu le topo sur Scarlet Witch et Quicksilver, et puis, y a eu quand même, l'air de rien, pas mal de news. On vous invite d'ailleurs à participer, si vous aussi vous voulez partager vos idées de théorie crafting, vos spéculations, n'hésitez pas à le faire en nous contactant sur Twitter @lesclairvoyants ou via le site.
Vous nous laissez des commentaires
vous
aussi.
Vous nous laissez des commentaires sur le site.
On discute avec vous.
Discuter.
On peut théoricrafter ensemble.
Et j'en profite aussi pour faire un peu de promo. On a un trade sur le forum geekzone.fr sur lequel on s'amuse avec nos amis de Geekzone à spéculer aussi sur l'avenir du MCU. Que c'est un peu ce trade qui a donné naissance finalement au podcast. Donc,
totalement. Faites attention, ça spoil un max.
Ça spoil si grave. Donc il vaut mieux être grave. À jour sur tout ce qui est séries télé et films parce que sinon vous risquez de vous gâcher les surprises. Mais si vous voulez venir discuter avec nous, donc geekzone.fr, et puis vous cherchez le trade MCU, vous pouvez pas le louper. Il y a une cinquantaine de pas,
c'est dans
crois.
Cinéma voilà. Et séries.
Voilà. En ce qui nous concerne, on se retrouve d'ici un mois à peu près pour un 9e épisode. On fera probablement un focus sur les Avengers parce que je pense qu'il est temps. Sur la team, sur comment elle s'est formée, sur leurs premières aventures. On explorera un peu le roster qui est quand même relativement vaste. Et on en profitera pour envisager un peu ce qu'ils peuvent devenir dans le MCU, dans les prochains films, puisqu'on sait qu'à la fin d'Age of Ultron, ils vont voir leur roster quand même assez fortement modifié.
Oui, donc, et puis on parlera des John Carter qui aura vachement avancé,
mais qu'on
sera
probablement terminé,
sera ouais. Même terminé, ouais.
Donc on pourra enfin vous dire si on avait raison en misant sur Madame Hydra. Écoute mon petit Fox, je te fais des bisous et je te retrouve le mois prochain.
Des bisous Fox, des bisous à vous.
À bientôt, ciao.
Et on dit pas Scarlet Witch, on dit Scarlet Quiche, Lorraine.
Oh non.
Ah si, t'es obligé, parce que tu me fais à chaque fois le truc, c'est... Non mais dans l'Est et en Belgique, vous faites wit et oui. Non, c'est l'inverse, bordel.
Putain.
Les Twins. C'est... Ça fait très... Je vais te faire un bobo, Nicky Larson, je suis trop méchant.
Tu viens tellement de gagner ta fin d'émission, toi.
Les clairvoyants.